Ve République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 1, 1958, naissance d'une république gaullienne.
Avec une rapidité inouïe, l'unité et la force de la France se sont dégradées. Nos intérêts essentiels se sont trouvés menacés. Notre existence en tant que nation indépendante et libre a été mise en cause. Cet affaiblissement est dû à bien des causes, mais il faut mettre au premier rang la défaillance de nos règles institutionnelles. Ces règles étaient en elles-mêmes inadaptées. Michel Debré, discours devant le Conseil d'État le 27 août 1958. Bonjour Anne-Charlène Bézina.
Bonjour Thomas.
C'est avec toi qu'on va dialoguer, converser sur cette constitution que tu connais par cœur. Tu en as même fait un livre où tu la commentes. Cette constitution qui nous protège, c'est chez IXO. Tu es donc constitutionnaliste, maîtresse de conférences à l'université de Rouen. Je reviens sur les mots de Michel Debré que je viens de lire. Il dit « ces règles en elles-mêmes étaient inadaptées ». Il parle là des règles de la 4e République et on ne peut pas discuter de la 5e sans raconter ce qu'était la 4e République. Quelles étaient ces règles inadaptées auxquelles il fait allusion ?
Alors, il y en a plusieurs. En réalité, c'est vraiment cette constitution de 1958, une constitution de réaction. Précisément, la 4e, mais on pourrait même remonter à la 3e République, étaient des régimes au départ parlementaires, mais qui ont dérivé en des régimes dits d'assemblée, c'est-à-dire en fait des régimes où l'assemblée peut absolument tout. Elle peut décider des lois, elle peut décider même des actes des administrations, étant donné que son pouvoir est absolument sans limite. Et je pense que l'essentiel de ce qui a causé la réaction 58, précisément, c'est cet abus de parlementarisme. Et ce que Michel Debré estime comme des règles inadaptées, c'est toutes les règles de ce parlementarisme-là. Une loi qui peut tout faire, un parlement qui maîtrise son planning, son ordre du jour, son agenda, ses discussions. Et c'est essentiellement autour de ces règles-là que Michel Debré va réfléchir avec le général de Gaulle à une nouvelle architecture.
C'est là que j'ai besoin de notes de bas de page. Quand tu dis régime parlementaire, ça veut dire quoi ?
Un régime parlementaire, alors précisément, ça c'est un enjeu tout à fait important dans cette date de 58 où on va commencer à réfléchir à la Constitution. Michel Debré nous dit, en réalité, on est en quête du régime parlementaire en France depuis presque 1791. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pas tant un régime parlementaire renouvelé, mais c'est un vrai régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire, normalement, c'est un équilibre assez grand entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire un régime où gouvernement et Assemblée nationale collaborent parce que le gouvernement émane de l'Assemblée et les deux travaillent ensemble sur les lois, sur les budgets, et c'est un équilibre en réalité qui se trouve. L'archétype, c'est évidemment celui auquel on pense tout de suite, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, avec un parlement très fort et un Premier ministre qui en est issu. C'est un peu le modèle d'ailleurs de Michel Debré, cette Grande-Bretagne. Mais nous, à chaque fois qu'on a fait du régime parlementaire, il a dérivé précisément avec une Assemblée toute puissante. On peut prendre la période de la Terreur, avec justement cette convention qui devient une Assemblée qui décide d'absolument tout, voire même d'éliminer ses propres ennemis toute seule. Et puis, on a 3e République, 4e République, ces dérives-là qui sont très grandes.
Ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que la 4e République, c'était le régime parlementaire et qu'on a voulu faire autre chose après. Toi, tu me dis pas du tout. En 1958, ils veulent faire un vrai régime parlementaire.
La phrase est de Michel Debré dans ce même discours de 1958 et dans tout ce qu'il a dit, d'ailleurs, pour expliquer cette constitution. Il a dit « Elle apparaît trop exécutive, on nous critique déjà sur cette question-là, mais en réalité, elle veut à nouveau équilibrer les pouvoirs. »
Mais on dit aussi que la 5e, elle s'est faite parce que la 4e, c'était l'instabilité gouvernementale. T'en parles pas ?
Je n'en parle pas parce qu'en fait, c'est ça la dérive du régime d'assemblée. C'est-à-dire que quand une assemblée peut tout, quand une assemblée n'a plus aucune limite, eh bien précisément, les gouvernements, elles n'en font qu'une bouchée. Mmh. Et c'est un petit peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est un régime d'instabilité. Mais c'est un régime d'instabilité qui ne vient même pas du fait que l'assemblée renverse les gouvernements. Elle n'en a plus besoin. Ah. Le gouvernement a tellement peur de son attitude qu'en réalité, il est complètement soumis à ses desiderata. Les alliances changent, les groupuscules font les majorités. Et de ce fait-là, cela. Il y a une forme d'absence de clarté dans le régime et dans le fonctionnement politique qui irrite complètement le général de Gaulle, qui, en 58, se dit « je vais redonner de la visibilité de ce régime-là au peuple ».
C'est marrant parce que quand tu parles, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent à la situation que la France vit de nos jours. Et puis alors, si on revient vraiment à 58, les événements qui vont faire tomber la 4e, a priori, n'ont rien à voir avec les institutions. La guerre d'Algérie qui s'embourbe. Pourquoi est-ce que Michel Debré, dans l'extrait que je viens de lire, fait un lien entre les deux ?
En fait, c'est Michel Debré, mais c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand René Coty l'appelle en mai, il dit « je fais appel en mai 58 au plus illustre des Français ». Et évidemment, c'est sa qualité de général, au fond, qui est vantée. Mais le général de Gaulle, on le sait, s'il arrive, c'est vraiment pas pour être le président du Conseil de la... Alors, président du Conseil, ça veut dire Premier ministre, ouais. En fait, hein, de la 4e République, qui va jouer une partition normale. C'est vraiment quelqu'un qui propose quelque chose de nouveau. Il l'a fait savoir en 1946. Et en fait, sa constitution n'ayant pas été adoptée, il quitte le comité de rédaction de la constitution de la 4e République. Donc, il a fait ce qu'on appelle la traversée du désert, précisément parce que ses idées n'ont pas été adoptées. S'il revient, on sait qu'on prend tout avec lui, le général et la constitution dite de Bayeux, c'est-à-dire celle qu'il avait déjà dessinée dans son discours de Bayeux de 46. Donc, René Coty est très au fait avec ça. Le général de Gaulle ne ment pas à l'Assemblée nationale quand il vient prendre l'investiture. Il dit, voilà, j'ai changé les règles. Et il a été un petit peu échaudé par le fait qu'on lui dise qu'il était un peu de tendance autoritaire. Donc, il veut le faire dans les formes. Il va réviser l'article relatif à la révision de la Constitution de la 4e République pour
réviser
dire...
Réviser la révision, je comprends rien.
En fait, il va réviser la révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, bon, non seulement je vais réviser la Constitution, mais je vais y aller un petit peu plus que ça. On comprend très vite qu'en fait, il va réviser toute la Constitution et qui va faire table rase, c'est-à-dire qu'il va en reprendre une nouvelle. Mais il le dit à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale fait quelque chose, c'est qu'elle corsette un peu sa liberté. Elle vote les deux lois du 3 juin 58. La première est une loi dite des pleins pouvoirs. Alors ça rappelle un peu Pétain, donc on ne lui donne pas les pleins pouvoirs personnels. On dit au général de Gaulle et son gouvernement, pour essayer d'encadrer
les
un peu.
Les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution.
Pour mettre en place de nouvelles choses. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez constitutionnellement large quand même, on lui fait confiance. Mais, deuxième loi du 3 juin, on cadre son pouvoir et on lui donne 5 principes dans lesquels la nouvelle constitution devra survivre. Et on va voir qu'il y a déjà un petit peu toute la nature particulière de cette 5e République. Une autorité judiciaire indépendante, une communauté française justement avec l'Algérie et avec toutes les colonies.
Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est quand même le moment. On ne peut pas prendre la 5e République sans comprendre la communauté française, c'est-à-dire vraiment cette idée d'organiser un peu la future décolonisation.
C'est intéressant,
ça, c'est le deuxième point.
Parce qu'on pense à aujourd'hui et on pense quand même au contexte dans lequel est née cette République. C'était une République où il y avait encore les colonies, notamment toutes les colonies africaines.
Précisément.
Et elle a été pensée dans ce contexte-là intellectuel et culturel et politique.
Complètement, et notamment, c'est vrai que quand on lit la première constitution de 58, on le voit, c'est annoncé dès le préambule.
Eh oui.
Les communautés françaises, c'est vraiment une manière de vivre ensemble. On essaye de créer un contrat commun qui fonctionne, hein, il faut le dire. Alors, pas très longtemps, mais qui fonctionne, qui séduit, en tout cas, tous nos dominions ou autres éléments qui sont, en tout cas, des attributs d'indépendance qui vont éclore, mais qui ne sont pas encore complètement certains d'eux-mêmes. Et au moment de cette communauté française, c'est donc le deuxième principe, autorité judiciaire indépendante, communauté française, je les cite dans le désordre, un gouvernement responsable devant son assemblée, donc c'est-à-dire qu'on garde la mécanique du régime parlementaire en fait,
ouais,
c'est-à-dire
ça, c'est
les
la
deux
définition précise
travaillent
du parlementarisme.
Ensemble. Ouais. Exactement, on garde le régime parlementaire et puis le suffrage universel à la source de tous les pouvoirs. Donc on voit bien qu'on veut vraiment encadrer le pouvoir du général de Gaulle. Et puis cinquième élément, et eh bien l'idée qu'il y ait un équilibre de ces pouvoirs. Donc en fait, l'Assemblée nationale fait confiance au général, mais elle essaye de l'encadrer. Et là, le général de Gaulle réussit une épreuve de force, c'est-à-dire qu'il rédige une constitution en moins de 3 mois. C'est la constitution de l'été 58, en fait, celle que nous avons.
Comment elle est rédigée ? On le sait, ça ?
Alors, dans un procédé très, très novateur par rapport à tout ce qu'on a connu dans notre histoire constitutionnelle, c'est l'une des seules constitutions, alors sauf celles qui ont été octroyées par un roi, qui n'est pas rédigée par une assemblée constituante. Mmh. Le général de Gaulle dit, on va s'embourber, on va perdre beaucoup de temps, on va avoir des tractations des uns face aux autres, et on parle en ce moment souvent des gouvernements techniques. Eh bien, c'est une constitution technique ici, parce qu'on fait appel à des comités techniques, on fait appel à Michel Debré, qui est conseiller d'État au départ, qui est vraiment choisi par rapport à son habit d'ancien juge administratif, de quelqu'un qui connaît bien bien le droit. Et le général de Gaulle dit souvent, c'est moi qui ai les idées et c'est lui qui en sera la plume, parce qu'il sait qu'il va mettre en œuvre, mettre en forme, en réalité, un petit peu la constitution de Bayeux dont on a déjà parlé. Donc, Debray est là pour son rôle de juriste, et il y a plusieurs comités pour rédiger cette constitution. Il y a le comité des partis, et ça c'est assez dingue, parce qu'en 58, on arrive à mettre tous les partis de l'échiquier politique ensemble, un représentant de chaque qui donne la coloration partisane, le cabinet du général de Gaulle et Michel Debray et ses rédacteurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée constituante, c'est largement né de la tête du général de Gaulle et de la main de Michel Debray, avec les avis des uns et des autres. Il n'y a pas d'opposition à cette nouvelle République.
Alors, c'est vrai que c'est une forme de cristallisation d'un moment d'unité nationale. C'est-à-dire qu'au moment de 58, il y a, on l'a dit, l'essoufflement de la quatrième, une usure de cette valse des gouvernements, de cette toute-puissance de l'Assemblée, une crise algérienne qui fait craindre pour l'unité de la nation. Et donc, l'appel au général de Gaulle, c'est le moment de réconciliation, en réalité.
Le déchirement de la nation a été de justesse empêché. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait sans avoir à aucun moment à tenter à aucun droit du peuple et à aucune liberté publique.
Dans cette nouvelle constituante, dans cette nouvelle manière de faire de la Constitution, on sent qu'il y a un projet profondément politique et profondément national, au fond. Le président de Gaulle dira plus tard « sans Constitution, pas de République ». C'est-à-dire que pour lui, en fait, il lit les deux. Et dans les mémoires de guerre, il dit « au moment où on m'appelle, moi, j'ai à nouveau un peu le souffle de la guerre ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis appelé par l'urgence et que c'est le même général qui revient rédiger sa Constitution. Donc c'est cette atmosphère-là, même si pour les oppositions, je te rassure, il y a quand même ce qu'on appelle les comités consultatifs constitutionnels, le comité consultatif constitutionnel, qui est constitué des anciens parlementaires de la 4e République qui ont un droit de lecture de cette constitution, et ils la changent pas mal à la fin de l'été, justement, ils l'amendent, ils la modifient, et le Conseil d'État, justement, c'est le discours que tu citais en préambule, discours de Michel Debray qui vient présenter devant le Conseil d'État, et c'est fou qu'on fasse lire ça au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État n'a normalement pas du tout un rôle constituant, mais là, on veut une relecture juridique. Le général de Gaulle a un souci et un seul, c'est que le respect des formes, le juridisme soit vraiment mis en avant.
Est-ce que c'est aussi le souvenir, parce que tu en as dit un mot il y a quelques instants, mais un mot seulement, des pleins pouvoirs de Vichy. Est-ce que c'est l'obsession de ne pas retomber dans quelque chose qui serait de l'ordre des pleins pouvoirs à un homme?
Complètement. Complètement pour l'Assemblée, mais complètement pour le général lui-même. C'est-à-dire que c'est un général qui vient en période de crise, et tout parallèle est tellement difficile pour les Français que vraiment, l'idée de marteler cette idée de la légalité, c'est quelque chose qui est censé rassurer les Français. Et on a le fameux discours du 4 septembre où le général vient justement dire « on renoue avec la République, on renoue avec les plus belles valeurs qui sont les nôtres ». Il cite d'ailleurs, avant de présenter cette constitution, toutes les autres républiques qu'il qualifie, la première ensanglantée, la deuxième libérale, et il veut vraiment s'installer dans ce continuum pour rassurer les Français. Et j'ajoute qu'il dit quelque chose, toute ressemblance avec les faits actuels pourrait être tout à fait volontaire. La Constitution donnera le cap, le reste dépendra des hommes.
Et est-ce qu'il y a l'idée à l'époque déjà que cette République sera la dernière? Qu'elle est là pour durer plus que la troisième, qu'on a longtemps qualifiée de la plus longue des républiques? Est-ce que c'est déjà dans la tête, j'allais dire, des constituants, en l'occurrence du général de Gaulle, de se dire cette République, elle durera pour toujours?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une réflexion sur la durée, mais ce qui rejoint complètement ce propos, c'est cette idée de sortir d'une forme d'échec permanent, historique, d'un jour sans fin. Et je pense que précisément le sursaut de la cinquième, peut-être qu'il est temporel, mais il est surtout structurel. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut qu'on trouve la constitution qui soit adaptée au paradoxe français aussi. C'est-à-dire qu'il y a la culture du chef, qui a fait nos empires, notre retour à la royauté, les directoires, etc. Et il y a le parlementarisme. C'est-à-dire que le général de Gaulle ne conçoit pas la Ve République sans son Parlement et son gouvernement, et l'autre cycle, il dit qu'il y a deux cycles, toujours, le cycle président-peuple et le cycle Premier ministre-Parlement.
C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce qu'on sent bien qu'une constitution, c'est pas qu'un texte technique, c'est la rencontre aussi entre un horizon d'attente d'un peuple, de sa culture, de sa civilisation, et une réalisation politique. C'est ce qui se joue en 58, à t'écouter.
C'est ce qui se joue en 58, et c'est pour ça qu'en fait, on a eu besoin du soutien des juristes, mais que c'est aussi une constitution très politique et qui est soutenue par l'ensemble des politiques.
Justement, j'allais te poser la question sur l'ensemble des citoyens. Elle passe par référendum, cette constitution. Comment ça se passe, le référendum? Et puis, rapidement, pour terminer cet épisode, les premières années de cette constitution, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on se dit très vite, ça marche?
Elle est adoptée par référendum. Là aussi, c'était une condition de la loi du 3 juin. Donc, l'Assemblée nationale de la 4e République avait vraiment peur que le général de Gaulle soit trop libre. Donc, c'est le peuple qui devait donner son assentiment. Le général y était très attaché aussi. Et c'est un vrai raz-de-marée. Hein. En réalité, c'était la plus belle majorité avec la plus belle participation qu'on a eue dans notre histoire, ce référendum pour adopter la Constitution. Et en fait, très tôt, on va vouloir, c'est un peu le mot d'ordre hein, de cette Constitution de 58, l'efficacité.
Oui.
Et on la met en œuvre très vite. Le général de Gaulle l'annonce d'ailleurs dès le départ. N'ayez crainte, on respectera le Parlement. Après, mais d'abord des ordonnances de mise de fonctionnement. Donc, on a les premières élections législatives qui arrivent en novembre 58. On élit le premier président. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat, un peu élargi, qui l'élisent en décembre, en la personne du général de Gaulle. On fait fonctionner le Conseil constitutionnel et tout ça à partir de janvier. Donc, vraiment, on a presque 4-5 mois de mise en fonctionnement. Et oui, on a l'impression que ça fonctionne parce que, en réalité, il y a une assez grande concorde autour de la majorité gaulliste, même si elle n'est pas absolue, en tout cas, elle est assez restreinte. Mais il y a cette idée, en tout cas, que tout le monde est assez d'accord avec le fait de sortir du dogme de la quatrième. Alors, même si, évidemment, je caricature, hein, il y a eu des positions d'opposition, notamment de la gauche, qui a été très, très dure avec cette constitution. La doctrine aussi, elle est un peu perdue, il faut être honnête.
Mais on va sortir totalement et peut-être définitivement du dogme de la quatrième en 1962, lorsque le président devient désormais élu au suffrage universel direct. Ça change tout et ça sera l'objet de notre prochain épisode. Cinquième République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.